Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données, ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre frère. Nous avons la ferme assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Bienvenue à l'Oratoire du Louvre pour ce culte qui rassemble aujourd'hui les enfants de l'éducation biblique, leurs parents, leurs familles, leurs moniteurs et monitrices. Bienvenue à celles et ceux qui peut-être franchissent le seuil de ce temple pour la première fois. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet ou des réseaux sociaux. Que nous soyons proches ou lointains, nous sommes en communion les uns avec les autres. Le culte est ce moment privilégié où nous sommes unis par le même esprit. C'est lui qui nous guide sur les chemins de la fraternité, malgré l'humanité déchirée, et qui nous procure la paix intérieure dont nous avons besoin pour rester à la fois confiants, lucide et toujours dans le discernement. Le culte qui nous réunit aujourd'hui est accompagné ce matin par David Cassan à l'orgue. Puissions-nous vivre ce moment, l'esprit au repos, le cœur apaisé. Prions ensemble. Seigneur, tu es le port tranquille de tous ceux que les flots de la vie agitent. Tu donnes l'espérance à ceux qui désespèrent. Tu es le salut des malades, le soutien des éprouvés, le guide des aveugles. Tu es l'appui des épuisés. Que j'obtienne le repos avec ceux qui mettent leur confiance en toi. Amen. Et nous ouvrons ce culte avec le premier répond que vous trouverez dans les feuillets liturgiques au début du psautier français. Je vous invite à vous lever. Dieu. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il tend l'oreille vers moi. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main se tend sans se lasser. Mon âme refuse d'être consolée. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je réfléchis et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil, je suis troublée, je ne parle pas. Je réfléchis aux jours d'autrefois, aux années du lointain passé. Je me rappelle mon cantique pendant la nuit, je médite au-dedans de mon cœur et mon esprit fait des recherches. Le Seigneur rejettera-t-il pour l'éternité? Ne sera-t-il plus à nouveau favorable? Sa bienveillance est-elle à jamais épuisée? Ce qu'il dit doit-il être anéanti de génération en génération? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il dans sa colère retiré ses compassions? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappellerai les actes de l'Éternel, car je me rappelle surtout ton miracle d'autrefois. Je méditerai sur toute ton action, je réfléchirai sur tes hauts faits. Dieu, ton chemin est dans la sainteté. Quel Dieu est grand comme Dieu ? Avec cet extrait du psaume 77 que nous venons de lire, je vous invite maintenant à prendre le chant du psaume 77b dans le recueil Le Psautier français et nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4. Prenez place. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire avec les paroles du prophète Ésaïe. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Prions ensemble. Depuis les profondeurs, je t'invoque, Éternel. Entends-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu prenais garde aux fautes, Éternel, qui pourrait tenir debout ? Mais c'est auprès de toi que se trouve le pardon, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, j'espère vraiment, j'attends sa parole. Je compte sur l'Éternel plus que les gardes sur le matin, oui, plus que les gardes sur le matin. Israël attend le Seigneur, car c'est auprès du Seigneur qu'est la fidélité et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Pour recevoir la grâce que Dieu renouvelle chaque jour, je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Chantons à Dieu notre reconnaissance. et nous restons debout pour confesser notre foi avec des mots que j'emprunte à Mylène et Nicolas. Et c'est un texte que vous pouvez trouver sur le site de l'Oratoire du Louvre. Nous croyons que Dieu est le Père de tous les hommes, de tous les peuples, de toutes les races. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les hommes. Dieu, le Père, a donné la terre à tous et pour tous. C'est ce qui fonde la solidarité. Les biens de la création doivent affluer dans les mains de tous. C'est le plus sûr chemin de la paix, car la paix est le fruit de la justice. Nous croyons que Jésus est le frère de tous les hommes, et spécialement des pauvres. C'est lui que nous voyons avoir faim, être nu, étranger, prisonnier ou malade. Nous croyons que celui qui juge, humilie ou calomnie tout homme, juge, humilie et calomnie Jésus-Christ, car tout homme a le visage du Christ. Nous croyons que Jésus-Christ, par sa vie et ses paroles, nous dit « Qui est l'homme ?» Jésus-Christ ressuscité nous donne l'Esprit de Dieu. Nous croyons que l'Esprit est esprit de liberté, esprit de tolérance, esprit de justice, esprit de paix. Il accueille au lieu d'exclure, il respecte au lieu de condamner. Il ouvre les portes et ne les ferme jamais. Nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Nous arrivons à ce moment du culte où nous allons lire un extrait de la Bible. Ensuite, nous chanterons un cantique et pendant le cantique, après la lecture de la Bible, les enfants de l'éducation biblique partiront avec les monitrices, mais aussi avec Béatrice Cléromazir, qui va les accompagner pour un super mini-culte. Aujourd'hui, nous lirons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, les versets 26 à 40. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Lève-toi. » Et va du côté de Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je ? Si quelqu'un ne me guide. » Et il invita Philippe à monter, s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération, qui la racontera ? Car sa vie est supprimée de la terre. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, alors que, joyeux, il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Et dans le recueil louanges et prières, nous prendrons maintenant le cantique numéro 179, cantique 179, dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Nous t'invoquons, ô grand Dieu. prenez place. Prions ensemble. Dieu de la vie, tu dépasses toujours ce que nous savons, ce que nous devinons de toi. Avant que nous te cherchions, tu es auprès de nous. Avant que nous sachions te nommer, tu es déjà notre Dieu. Nous ne pouvons te cerner de nos mots, et nos yeux sont incapables de voir ton visage. Pourtant, il arrive que des hommes et des femmes se comprennent si tu répands sur eux ton esprit. Alors, fais-le descendre sur nous, sur toute ton Église aujourd'hui. Remplis de sa force nos paroles impuissantes. Mets dans notre bouche un langage nouveau, que le monde s'y reconnaisse. Donne-le-nous pour qu'à notre tour, nous en soyons les témoins et les messagers, ici comme au loin. Permets que nous recevions de cette parole ce que la vie a de plus beau et de plus généreux, le mouvement, l'élan qui nous porte vers toi, toi, le Dieu de la vie. Amen. Amis, frères et sœurs, en ce dimanche de l'éducation biblique, nous continuons notre découverte des différents titres donnés à Jésus de Nazareth, découverte que nous avons appelée Jésus dans tous ses états. Cette année, nous essayons de comprendre à travers les textes bibliques combien la figure de Jésus-Christ est une construction toujours en mouvement, entre le personnage historique Jésus, dont la majorité des archéologues ne doutent plus de l'existence, si j'en crois cet article paru récemment dans la version Internet de la revue National Geographic, écrit par Christine Rome, et le Messie attendu, reçu par l'Église primitive, décrit et raconté dans les récits évangéliques. Parmi les titres donnés à Jésus, certains nous conviennent bien, comme le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, ou Emmanuel, Dieu avec nous, au moment de Noël, ou encore Jésus, le Maître, l'enseignant, ou encore le nouveau Moïse, qui rappelle le libérateur du peuple de toute forme d'esclavage. Oui, tout cela nous convient bien, parce que ce sont des titres plutôt gratifiants, qui contiennent en leur sein un projet positif pour l'être humain, une promesse d'un futur ouvert et serein, d'un avenir restauré. Mais aujourd'hui, un des titres donnés à Jésus, c'est celui du serviteur souffrant. À quoi cela fait-il allusion ? À deux choses. Tout d'abord aux souffrances de Jésus subies lors de son procès, suivies de sa condamnation à mort et de sa crucifixion. C'est ce que nous appelons la passion de Jésus, cette passion que nous lisons au moment du jeudi et du vendredi de la semaine sainte, quelques jours avant Pâques. La deuxième chose, cette souffrance supportée par Jésus alors qu'il était considéré comme innocent, renvoie à une autre référence biblique que l'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Et là, le contexte n'est plus du tout le même. Au moment du prophète Ésaïe, environ 800 ans avant la venue de Jésus, le peuple d'Israël est maltraité. Il est envoyé en exil à Babylone. Jérusalem tombe aux mains de l'ennemi assyrien. Le temple est détruit. Et le prophète Ésaïe est celui qui apporte les paroles de réconfort et de consolation au peuple d'Israël. Et c'est un livre important, un livre de référence pour la foi juive. Mais au moment où l'on s'y attend le moins, à 4 endroits différents du livre, voici qu'une figure énigmatique apparaît que l'on ne peut rapprocher d'aucun personnage historique, d'aucun roi de cette époque. Ce personnage mystérieux est injustement persécuté. Sa mission est d'accepter pour lui-même la souffrance imméritée, démesurée, pour sauver d'autres êtres humains des fautes qu'ils ont commises. Souffrir et mourir à la place de tous les autres, cela rappelle le rite du bouc émissaire, présent dès le début de la religion d'Israël. C'était un rite pour laver le peuple de tous ses péchés. Le prêtre sélectionnait deux boucs. Un était désigné pour être emmené dans un lieu désertique appelé Azazel. On le chargeait des fautes et des violences de tous les autres et il mourait dans le désert. L'autre bouc était sacrifié au temple en offrande à Dieu. Comme nous pouvons le lire dans l'institution du livre du Lévitique. Alors, frères et sœurs, pourquoi ce rite étrange? À l'époque, personne n'existait seul dans la communauté. Si quelqu'un commettait une faute, elle rejaillissait sur tout le monde. Tout le monde était fautif. Et la suprême punition, c'était le bannissement. Bannissement de la communauté. Le rituel du bouc émissaire permettait alors l'expiation collective. Le bouc paye pour tous les autres, si j'ose dire. Et dans les sociétés antiques, on retrouve aussi l'idée d'un membre qui paye pour tous les autres. Ainsi, la collectivité est purifiée par le sacrifice d'un individu. Et c'est cette notion que l'on retrouve dans le livre d'Ésaïe, au moment où le prophète essaye d'instruire le peuple d'Israël, infidèle au commandement de Dieu. Et cet individu est appelé dans le livre d'Ésaïe le serviteur de l'Éternel. Et dans ce livre, il y a 4 chants concernant le choix et la mission de ce serviteur. C'est Dieu qui choisit ce serviteur en mettant en lui son propre esprit. Cet homme révélera le droit selon la vérité. Il sera la lumière des nations. Il ouvrira les yeux des aveugles. Il fera sortir de prison le captif. Très vite, le serviteur se rend compte que sa mission n'est pas comprise, ni même reçue. Il reconnaît qu'il s'est engagé, fatigué pour rien, et qu'il a consumé ses propres forces contre la vanité des hommes. Mais quand ce serviteur est maltraité à cause de sa mission, alors il ne se dérobe pas, il ne dérobe pas son visage au crachat, ni son dos à ceux qui le frappent ou lui arrachent la barbe. Et voici maintenant les versets qui sont au cœur de notre réflexion. Qui a cru ? Donc c'est un extrait du livre d'Ésaïe au chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes et écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est exactement ce passage qui nous rattache au texte d'aujourd'hui que nous venons de lire à l'instant dans le livre des Actes des Apôtres. Là aussi, une étrange histoire nous est racontée avec cette rencontre entre Philippe et l'eunuque éthiopien. Cette histoire se situe après la résurrection de Jésus, après le don de l'Esprit-Saint aux apôtres à Pentecôte. Philippe fait partie des 7 diacres choisis pour servir l'Église de Jérusalem et aider les apôtres dans leur mission toute nouvelle. Il quitte Jérusalem pour aller évangéliser la Samarie, et c'est à ce moment qu'il rencontre l'eunuque éthiopien sur sa route. Cet homme n'a pas de nom, mais on le connaît par sa fonction. C'est un haut fonctionnaire au service de Candace, reine d'Éthiopie. Et il est responsable de tous ses trésors, comme le dit joliment l'Évangile. On dirait aujourd'hui peut-être qu'il est son ministre des Finances. Mais on connaît aussi cet homme par sa particularité physique. Il est eunuque. C'est-à-dire qu'il a subi une opération importante qui l'empêche d'avoir des enfants et qui le rend moins viril qu'un autre homme, mais qui lui permet en revanche d'avoir cette place de haut fonctionnaire auprès de la reine, car en effet, les eunuques sont les gardiens de la reine. Et si cet homme rentre chez lui alors qu'il venait de Jérusalem, certainement qu'il était en chemin pour devenir juif, il était ce que nous appelons un craignant Dieu. Mais il ne pourra jamais devenir juif, puisque cet homme ne peut pas avoir d'enfant, qu'il ne peut pas en faire. Il est donc stérile et il n'est pas complet. Et comme il ne peut pas avoir de descendance, il ne peut pas être béni de Dieu. Il rejoint donc les autres catégories de personnes qui sont privées de la bénédiction de Dieu. Selon le judaïsme, les personnes handicapées, les personnes malades, les femmes stériles. Et c'est pourquoi il y avait de nombreux rituels qui servaient à la réconciliation entre Dieu et les fidèles qui avaient des problèmes d'imperfection, d'incomplétude. Et pendant son ministère, Jésus ne cessera pas de guérir les infirmes et les malades, physiques, psychiques, les hommes et les femmes, et il restaurera chacun, chacune dans sa relation à Dieu. Il dira que la maladie ou l'infirmité n'a rien à voir avec les péchés ou le péché. Et il guérira au nom de Dieu. Seulement, Jésus sera victime d'une erreur importante, celle de ne pas avoir été reconnu comme venant de Dieu et comme agissant en son nom. Sa mission ressemblera, pour ceux qui en seront témoins, à celle du serviteur souffrant cité dans le livre d'Ésaïe. Mais la grande nouveauté de l'Évangile, c'est de découvrir que tous les bannis, celles et ceux qui se sentent maudits, rejetés, exclus, se trouvent alors rassemblés grâce à l'exemple de Jésus dans leur relation à Dieu. Et c'est ce que Philippe est sûrement en train d'expliquer à l'eunuque éthiopien, qui, à cause de sa mutilation, ne pouvait pas faire partie entièrement de la société humaine et religieuse. Et Philippe est en train de dire à cet homme blessé, blessé dans sa chair, mais sans aucun doute dans son cœur, qu'il y a de l'espace pour lui, même s'il n'a pas tous les attributs. Et c'est là la grande révolution de l'Évangile, mais aussi le grand chamboulement pour l'Église primitive qui est en train de voir le jour. Il y a de l'espace et une place pour chacun, chacune, même sans avoir tous les attributs. Et l'eunuque éthiopien comprend grâce à Philippe que cette parole est pour lui. Il découvre avec Philippe qu'en Jésus, il y a un homme qui a donné sa vie afin que lui, eunuque éthiopien, ne craigne pas de vivre la sienne telle qu'il est. Quelqu'un l'a déjà précédé sur sa route de détresse. Et ce serviteur souffrant, c'est à la fois l'eunuque éthiopien dans son infirmité, mais c'est en même temps Jésus dans sa passion. Mais au fond, c'est tout à chacun qui se trouve dans une situation de douleur, quelle qu'elle soit, physique, psychique, morale, affective, sentimentale. Et nous savons ô combien les tragédies humaines sont innombrables. Lorsque nous disons que les mots écrits dans la Bible en particulier deviennent une parole vivante, eh bien c'est possible quand chacun, chacune de nous peut dire au minimum une fois dans sa vie ce que j'entends, ce que je suis en train de lire en cet instant précis, je le relis au sens relié à ma propre vie, à ma propre existence, à ma propre histoire. Quand chacun ou chacune peut dire « ici, c'est moi » ou « ici, c'est pour moi », alors c'est là que la parole nous rejoint, exactement là où nous sommes, là où nous en sommes, exactement comme ce fut le cas, je le crois, pour l'eunuque éthiopien. Alors le serviteur souffrant de la Bible n'est certes pas le thème le plus porteur et le plus rassurant. Mais hélas, c'est la situation de tant d'hommes, de femmes et d'enfants à travers le monde. Et aussi dans notre entourage le plus proche. Jésus a été le serviteur souffrant au nom de l'amour qui animait chacune de ses paroles, chacun de ses gestes, en particulier envers les laissés pour compte, les petits, les exclus, les moins que rien. Alors pendant ce temps préparatoire à la Semaine Sainte et à la fête de Pâques, les chrétiens, toutes confessions confondues, sont appelés à se souvenir des paroles et des gestes de Jésus et à les décoder pour leur propre vie. Grâce à la présence peut-être de celles et de ceux qui, comme Philippe, sont là pour expliquer et donner leur témoignage de vie et de foi. Ils sont appelés à comprendre qu'avant d'être le Christ ressuscité, qu'ils ont la joie de célébrer, Jésus a d'abord été mis au rang des malfaiteurs et des exclus, afin que personne ne soit oublié. Et c'est en ce sens-là, me semble-t-il, que le serviteur souffrant devient un signe du salut. Mais loin d'être quelque chose d'accablant pour celui ou celle qui le comprend et le reçoit dans sa vie. Au contraire, cette personne devient un être nouveau, libre et joyeux, tout comme notre eunuque éthiopien ce matin, qui choisit à la fin de demander le baptême en réponse à cette libération opérée en lui et en signe de reconnaissance de cette grâce offerte, qui lui est offerte contre toute attente, et de continuer sa route libre et joyeux. Remarquons au passage que Philippe ne s'attarde pas du tout auprès de l'eunuque éthiopien, qu'il ne s'impose pas, qu'il s'en va, laissant cet homme à sa liberté et à son autonomie de vivre sa foi comme il le souhaite. C'est une manière de rappeler que c'est Luc, l'évangéliste, qui a écrit les Actes des Apôtres. C'est le deuxième tome après l'Évangile. Et là, avec ce récit en particulier, Luc prend position pour un christianisme qui n'exclut personne. Alors, sans doute avait-il en mémoire une autre prophétie d'Ésaïe, et pas la moindre. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera sûrement de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amis, frères et sœurs, avec le serviteur souffrant aujourd'hui, nous découvrons ou nous redécouvrons peut-être que Dieu se tient au creux des souffrances des êtres humains. Et que c'est là qu'on peut le chercher et le trouver. Et en Christ, si toutefois c'est notre foi, Dieu nous a rejoints et continue de nous rejoindre au fond de nos enfers, quel qu'il soit, pour nous prendre par la main et nous tirer vers sa vie, pour que nous n'ayons plus peur de vivre la nôtre. Amen. Je vous invite à prendre le cantique numéro 138 que vous trouverez dans le recueil Louanges et prières, cantique 138, et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Et je cède la parole maintenant à Aurore Sagliotebo pour quelques annonces.
Merci Agnès. Souffrant parfois, libre et joyeux tout le temps.
Voilà. Si tu veux.
Comment pourrions-nous servir si nous n'étions pas libres et joyeux ? Comment témoigner de la bonne nouvelle si nous ne sommes pas libres et joyeux? Grand merci à vous d'être venus si nombreux, malgré encore quelques grèves sur le RER qui mène à l'Oratoire du Louvre. Et merci à tous ceux qui sont en ligne. Cette semaine, quelques annonces. Alors, une qu'on a complètement oubliée, et pourtant on ne pense qu'à ça, mais on ne l'a pas mis dans le mail du vendredi soir. Groupe œcuménique, ce mercredi.
À 19h,
à Saint-Eustache.
À Saint-Eustache, oui, tout à voilà. Fait, salle des colonnes, j'y serai.
Donc nous ne l'avons pas annoncé sur nos emails hebdomadaires, mais le groupe œcuménique se réunit bien mercredi.
Oui. Nous voilà. Continuons notre lecture d'Ézéchiel.
Pas besoin de rumeurs, le groupe œcuménique continue mercredi.
Oui, tout à fait.
Jeudi, pause spirituelle également.
Oui.
Le week-end prochain, j'attire votre attention, nous avons le cœur, un verre de l'amitié également après. Et l'après-midi, nous invitons, c'est une tradition à l'Oratoire du Louvre, l'Armée du Salut à faire un concert dimanche après-midi. Donc dimanche prochain, Vers de l'Amitié, le cœur de l'Oratoire avec nous, avec lequel j'espère il partagera le verre de l'amitié. Ça vous permettrait de rencontrer les choristes et le chef de chœur, qui, je le rappelle, cherche toujours des chanteurs, des choristes. Et dans 15 jours, nous célébrons le centenaire de la Fraternité des Veilleurs, qui a donc été créée par le pasteur Wilfried Monod. Donc nous passerons le week-end avec la Fraternité des Veilleurs. Nous vous donnerons le programme détaillé. Mais notez déjà, vous avez entendu tout à l'heure David Cassan à l'orgue. David Cassan, à l'occasion du centenaire de la Fraternité des Veilleurs, donnera un concert d'orgue ici même. Également, nous aurons une initiation à la prière, une conférence de Frédéric Rognon et surtout l'installation du nouveau veilleur qui aura lieu donc dans 15 jours.
Du nouveau prieur.
Prieur, oui. Tu as raison. Du nouveau grand prieur, je crois même.
Peut-être.
Oui. Et l'après-midi, parole d'amour.
Voilà.
Dans 15 jours. Exactement. Voilà quelques nouvelles. J'appelle les scouts. Vous avez le clan des loups. Les scouts éclaireurs unionistes, le clan des loups. Voilà. Qui vendent des gâteaux à la sortie. Voilà. Donc je te laisse expliquer pour quelle raison.
Merci Aurore. Donc nous sommes à la sortie, nous vendons des gâteaux pour financer l'achat d'outils et de matériel pour que notre camp se passe bien. Par exemple, l'année dernière, l'ancien chef de la patrouille, mon prédécesseur, a cassé plusieurs maillets et il va falloir qu'on en rachète, sinon ça va être plutôt compliqué. Du coup, on vend des gâteaux, du chocolat chaud, et voilà, passez. Ça peut être sympa si vous avez faim. Merci beaucoup.
Et toi, tu vas casser combien de maillets ? Oh, t'es presque parfait. Merci à tous, bon dimanche et à dimanche prochain. Et sinon, n'hésitez pas à rejoindre le groupe œcuménique mercredi à Saint-Eustache. Merci à vous. Et vous vous rappelez que le don est joyeux, puisque nous sommes libres et joyeux, nous sommes libres et joyeux de donner. Merci à vous.
Je vous invite à la prière les uns pour les autres. Éternel Dieu de la vie, nous nous plaçons maintenant devant toi tels que nous sommes, avec ce qui fait l'ordinaire de nos vies, avec ce qui fait les joies, mais aussi les souffrances de notre quotidien. Ces souffrances que certains connaissent, que d'autres ne savent pas, mais qui sont là. Nous voulons te présenter la tragédie, les tragédies de notre monde. Et en même temps, nous voulons te dire que nous cherchons inlassablement un signe de ta présence, de ton amour. Pour chacun et chacune d'entre nous, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous sommes obligés de passer en ce moment. Nous avons été à l'écoute de cette lecture du serviteur souffrant. Peut-être pour qu'aujourd'hui nous puissions être reliés à toutes ces souffrances au-delà de nous-mêmes. Et qu'en même temps, d'une certaine façon, le monde soit relié aussi à nous. Alors nous te confions celles et ceux qui demandent le secours de notre prière, qui réclament notre présence, qui espèrent un signe, même tout petit, de notre part. Nous te prions pour celles et ceux qui éclaire et qui accompagne jusqu'au bout parfois les destinées parfois insoutenables de certaines personnes. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui trouvent les mots, qui donnent le geste qui pourra faire réparation, qui pourra offrir le pardon, qui pourra donner cet amour qui manque à tous. Nous te remercions pour ta parole, qui n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil, mais qui nous invite toujours à la réflexion, à la prise de conscience, au discernement de tout ce qu'il faudrait faire, de tout ce qu'il faudrait dire, afin que nous puissions chacun notre manière et en complémentarité rendre ce monde plus fraternel. Alors bien sûr, cela demande un risque, de prendre un risque. Et nous pouvons compter sur ta présence, parfois tellement incroyable, qui nous donne cette force d'être enfin les témoins que tu attends. Alors, nos prières sont imparfaites, mais elles sont exprimées tant bien que mal avec ce que nous sommes et rien d'autre. Néanmoins, nous allons tout de même les rassembler dans celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amis, frères et sœurs, voici l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur pour chacun, chacune, avec les mots de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu dans les prières, avec des supplications, avec des actions de grâce. Et que la paix de Dieu, qui surpasse absolument tout ce que nous pouvons imaginer, garde maintenant vos cœurs, vos pensées, vos jours et vos nuits. Allez dans la paix de votre Seigneur. Amen. Je vous souhaite un très beau dimanche.